Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Je m'appelle Eric Seclet et je suis copywriter freelance pour SaaS B2B. Le but de ce podcast est simple, vous apporter sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience d'entrepreneurs de l'écosystème SaaS. À chaque épisode, direction les coulisses pour parler validation de l'idée, conquête des premiers utilisateurs, acquisition, pivot, mais aussi réussite et apprentissage. On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti, nouvel épisode de SaaS Club, un hors-série, ça faisait longtemps et aujourd'hui je reçois Pierre Hérubel pour parler de stratégie de contenu. Bienvenue Pierre.
Salut Eric, merci de l'invitation.
Super content qu'on fasse cet épisode ensemble. On s'est rencontrés virtuellement sur LinkedIn, après on s'était vus à Bangkok. Et à ce moment-là, on se disait mais ça serait marrant de faire un podcast ensemble. Et donc ouais, fallait juste que je trouve l'angle. Et il y a 3 semaines, on s'est recontacté pour ça. Donc je suis très content qu'on fasse cet épisode ensemble. Alors je rappelle le but du hors-série, c'est de vous ramener un expert. Aujourd'hui c'est Pierre pour parler d'un sujet très précis. On va parler de stratégie de contenu et moi je me voyais pas faire un épisode là-dessus avec un autre invité que Pierre qui produit déjà du super contenu sur LinkedIn. Donc déjà je vous invite à le follow si c'est pas le cas. Et en plus de ça, ce que j'aime dans son approche c'est qu'il est hyper pragmatique et concret. Donc c'est justement l'esprit du hors-série. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, comment t'es tombé dans le content d'ailleurs, et qu'est-ce qui fait tu t'es spécialisé dessus?
Ok. Déjà, ouais, merci pour l'invitation. Très content de faire mon premier podcast français avec toi.
Avec plaisir.
En ce moment, je suis solopreneur, spécialisé en marketing B2B et plus précisément en stratégie de contenu. Je dis en ce moment parce que je suis pas à l'abri de recréer une boîte d'ici peu.
Mm-hmm. Parce que tu avais l'agence avant.
Sinon, ouais, tout à fait. Ouais. Deux agences. Sinon, donc je suis arrivé en Thaïlande en 2016 à la base pour travailler au ministère des Affaires étrangères à l'ambassade de France. Et après, j'ai fait un gros virage à 360 degrés où je suis parti en agence pour être partenaire. Agence web, communication assez à l'ancienne mais qui marchait très bien. Mmh. Et après j'ai fait un peu du freelance sur les îles en Thaïlande. C'était une époque assez sympa, c'était pendant le Covid d'ailleurs. Et ensuite j'ai cofondé Red Dot, donc une agence go-to-market avec Alain. Et en fait on a accompagné en go-to-market un peu plus de 70 clients sur un an et demi, 2 ans à peu près. Et donc super expérience, et on a décidé en fait de vendre la société en 2023, en septembre. Et donc depuis je suis solopreneur, comme je disais, spécialisé en content marketing. Donc ce que j'ai vu en fait c'est que donc sur ma carrière j'ai fait un peu plus de 300 projets en marketing. Mmh. Et globalement j'ai assez de volume pour analyser les patterns, donc ce qui marche, ce qui marche pas, et ça me permet en fait de collecter des insights et de les transformer en contenu. Et en fait, ça nous a beaucoup servi chez Red Dot. On a pu avoir des clients grâce à ça. Et depuis maintenant septembre 2023, je me suis respécialisé en stratégie de contenu. Uh-huh. Parce que de ce que j'ai vu, c'est ce qui marche le mieux en ce moment. Uh-huh. Parce qu'il y a une tendance dans le SaaS ou dans le service qui est le self-serve buying trend. Donc, les gens préfèrent de se documenter, faire de la recherche avant de faire appel à un sales par exemple. Mmh. Et donc ça colle complètement avec la stratégie de contenu, on peut en reparler après. Et tout simplement, moi je suis un marketeur, entrepreneur, donc je suis le marché en quelque sorte. Et là ce qui marche vraiment c'est le content marketing, avec aussi ABM, social selling, on peut en reparler. Donc voilà pourquoi en fait je me suis spécialisé en content marketing.
Et juste pour par rapport à Red Dot là, quand vous faisiez du content pour générer des leads, t'arrives à quantifier Vous avez réussi à quantifier combien ça représentait de votre lead gen?
Alors au début de l'aventure, en fait, c'était Alain qui faisait beaucoup de lead gen via LinkedIn, sur la France notamment. Après, on était à peu près pareil en termes de lead gen, lui et moi. Et on avait quelqu'un d'autre dans la boîte, Florian, je ne sais pas si, si tu l'as connu, sur LinkedIn, qui est toujours très actif, qui faisait beaucoup de contenu. Et donc, ça a pu représenter jusqu'à 70% du revenu. Le reste étant un peu d'outbound et du referral aussi.
Ok. Et tu disais qu'aujourd'hui c'est ce qui marche le mieux le content, notamment pour les SaaS B2B, et que une des raisons c'était aussi le fait que maintenant les bailleurs s'informaient par eux-mêmes à leur rythme. Selon toi, qu'est-ce qui a provoqué ça en fait? Qu'est-ce qui a fait que les gens ont shifté un peu vers ce mode de consommation où ils sont vraiment plus en contrôle, tu vois, du process?
Ouais. En fait, t'as l'avènement de plusieurs tendances et plusieurs faits. Donc déjà, le B2B à l'ancienne, t'étais obligé de passer par un sales parce qu'il n'y avait pas de communauté. Le social media, c'était vraiment pour le B2C. Et globalement, c'était assez dur d'avoir de l'information. Tu devais passer par des gros rapports qui étaient faits par Gartner, etc. Comme dans tout le reste de l'économie, en fait, il y a eu une décentralisation de l'information qui est passée de des gros acteurs vers en fait réseaux sociaux, communautés et de la un peu du user generated content, tu vois. Et donc ça, en fait, ça a mis un shift avec le Covid aussi, notamment avec tu sais tout ce qui est la vague des webinars, des zooms, etc. En fait, tout ça, ça a fait que plus les gens ont accès à l'information, moins ils ont besoin de passer par un sales pour avoir accès à cette information et faire un achat qui est justifié auprès de l'entreprise. Et donc, tous ces éléments ont fait que de plus en plus, il y a cette tendance-là. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Après, il y en a d'autres parce que c'est systémique, en fait.
Et le parmi les éléments de réponse, est-ce qu'il y a le côté générationnel aussi ou où en fait les gens maintenant vont vraiment s'éduquer à la racine sur les réseaux sociaux principalement ou via du bouche à oreille versus avant comme tu disais l'information était difficilement trouvable donc on allait je sais pas sur le site de la boîte demander une démo donc ça participe aussi à ce shift
en termes de génération. Sur un point de vue assez clair, c'est que là, sur la génération Z qui va arriver, qui arrive massivement dans le monde du travail, c'est vrai que ça va encore plus amplifier cette tendance-là, ça c'est sûr. Donc oui, après, moi je pense qu'il y a des personnes qui, avant Covid, étaient vraiment, qui téléchargeaient des gros rapports, même qui les achetaient, qui passaient par des sales, qui faisaient des meetings en présentiel, même aux US, ils prenaient l'avion pour aller dans une autre ville pour rencontrer quelqu'un. Mais même ces personnes-là, et ont eu un shift en fait vers un nouveau modèle.
Ok, intéressant. Là on est en février 2024 au moment d'enregistrer l'épisode. Est-ce que toi t'as frameworkisé on va dire ton approche si je puis dire en te basant sur cinq couches on va dire de content avec pour chaque couche un niveau d'engagement associé. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement?
Ok. Est-ce que je peux faire une petite intro sur le contexte, d'abord, pour expliquer pourquoi c'est important?
Bien sûr.
En fait, le postulat de base, le problème de base même, c'est que le vendeur, donc la boîte B2B qui essaye de vendre, est de base pas aligné avec l'acheteur. Le vendeur, en fait, veut vendre vite, par définition, tu vois, tu veux raccourcir tes cycles de vente, tu veux avoir le plus de leads possible rapidement. De l'autre côté, l'acheteur, en fait, il veut prendre son temps et être sûr de prendre la bonne décision. Mmh. Il veut être sûr que l'achat va pas impacter négativement son équipe, qu'il va pas avoir trop de taf derrière, qu'il va pouvoir gérer les équipes, etc. Et donc, il y a un désalignement comme ça, et le truc à pas faire, c'est essayer de pousser ton approche en tant que vendeur, en tant que B2B marketeur ou SaaS B2B, à pousser vraiment, tu vois, avec des séquences agressives où en 15 jours, tu essayes de closer un deal, par exemple. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment la chose à pas faire. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est comprendre à la base comment les acheteurs achètent en B2B. Dans n'importe quel marché, dans n'importe quelle industrie, tu vois, ça diffère, mais il y a des règles fondamentales. La première règle, c'est que sur ton marché, admettons, de 100%, t'as pas 100% des personnes qui sont prêtes à acheter maintenant. Mmh. T'as, admettons, 80%, 90% qui sont pas prêts à acheter tout de suite. T'as aussi le fait que avant d'acheter, ils sont obligés de passer par des étapes assez complexes. Tu vois, ils doivent d'abord, ils sont pas au courant qu'ils ont un problème. Ensuite, ils découvrent le problème. Ensuite, ils découvrent la solution. Ils comparent les providers et ensuite ils rentrent dans la partie sales. T'as aussi le fait que, en fait, leur intention d'achat, elle va être influencée par plein de facteurs différents. Ce qu'ils vont lire sur LinkedIn, ce qu'ils vont voir à la télé, même ça peut être aussi des questions d'ego ou même des compétiteurs qui font quelque chose et donc qui veulent s'adapter. Donc t'as plein de facteurs en fait qui vont consolider, enfin qui vont concrétiser ce parcours d'achat. Et en fait là où le contenu intervient, c'est en fait ce qu'il faut faire, c'est déjà analyser, donc prendre connaissance de cette réalité du marché. Qui est que les cycles de décision sont complexes, il y a des buying checklists à respecter, il y a des champions, il y a des buying committees, enfin il y a beaucoup d'éléments qui font partie du customer journey. Et en fait, le rôle du marketeur et du content marketeur, ça va être d'analyser ce processus décisionnel et derrière de voir en fait pourquoi les acheteurs achètent. Pourquoi en fait quel buying triggers, déclencheur d'achat,
déclencheur.
Yes, je vais faire pas mal d'anglicisme. J'en ai déjà fait 100, je crois. Deuxièmement,
ouais,
tu vois,
on a l'habitude dans ça.
Ok, les problèmes qu'ils rencontrent. Donc vraiment, la liste de choses, même les motivations également. Pourquoi ils veulent acheter. La deuxième chose, c'est de comprendre comment ils achètent. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de marketeurs qui s'intéressent au why, pourquoi ils achètent, les pains, les problèmes. Mais pour moi, ça, c'est que 50%. Le reste du 50%, c'est de comprendre comment ils achètent. Quelles sont les dynamiques en interne? Est-ce que c'est d'abord les opérationnels qui identifient un produit, qui en parlent aux exécutifs, ou est-ce que c'est les exécutifs qui lancent un projet et demandent aux opérationnels de trouver des solutions? Est-ce que, derrière, t'as aussi les champions, t'as la buying checklist. Donc, concrètement, c'est un A4 avec écrit, voilà ce qu'on doit acheter. Et t'as aussi, dernier point, ce que l'acheteur veut voir avant d'acheter. Ça, c'est très concret. Et nous, ça nous intéresse en tant que marketeur, en tant que content marketeur. Qu'est-ce qu'il veut voir? En général, c'est le starter pack, c'est il veut voir la bio des fondateurs, il veut checker le LinkedIn des fondateurs, si c'est une petite boîte, admettons, pas pour Salesforce, hein, évidemment. Il veut voir des case studies, des études de cas. Il veut voir une data room, par exemple, avec les résultats qu'apporte le SaaS ou une étude de cas vraiment poussée. Donc, en fait, il y a une liste de choses qu'il veut voir. Et ça, en tant que content marketer, tu dois le prendre en considération autant que pourquoi ils veulent acheter. Mmh. Et donc ça, c'est le contexte général de en quoi une stratégie de contenu est importante et pourquoi j'ai créé ce framework qui te permet de te calquer sur ce parcours décisionnel.
Trop bien. Est-ce que juste avant du coup de rentrer dans le vif avec ce framework, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des recos sur justement comment est-ce qu'on fait une recherche, je dirais, quali pour savoir exactement pourquoi ils achètent et pas pour les raisons de surface, hein, pour les vraies raisons, et comment est-ce qu'ils achètent?
Ok. Donc en fait, la première chose en termes d'études de marché, c'est de, faut pas regarder d'abord ce que les gens font, mais faut regarder les tendances de marché. En fait, sur un marché donné en SaaS ou en service, peu importe, t'as des tendances de marché, t'as des drivers, et en général, c'est lancé par des influenceurs, c'est lancé par des grosses boîtes qui fonctionnent bien, etc. Donc ça, c'est super important de le prendre en considération, parce que si par exemple tu sais que les podcasts sont à la mode, bah c'est un driver qui est en train de driver le marché, et c'est important de le prendre en considération. Deuxième point, c'est d'aller chercher de la donnée quantitative, pour moi, enfin de la donnée plutôt quali, mais que tu vas aller sourcer sur internet. Donc tu vas aller l'analyse de mots-clés, c'est super, même en B2B, j'en fais beaucoup. Les trends aussi avec Google Trends et un plugin que j'utilise qui s'appelle Glimpse, qui est super. Et SEMrush aussi, avec qui je suis partenaire. Et en fait, tu vas aller regarder en termes d'analyse de mots-clés, qu'est-ce que les gens cherchent. Ça, c'est super important. Après, sur LinkedIn, tu vas aller analyser les profils des fondateurs qui sont dans ta cible. Fondateurs ou ta cible, hein, si par exemple tu targetes les comptables, faut aller regarder ce qu'ils font également, les verbatims qu'ils utilisent, etc. Et la dernière couche, ça va être plus qualitatif, ça va être des interviews en fait. Et là, c'est super important également. Et donc, en termes d'interview, l'objectif, c'est de comprendre ce dont je parlais juste avant, c'est pourquoi ils achètent et comment ils achètent. Donc, sur la partie pourquoi ils achètent, c'est vraiment important d'identifier le problème, comme tu l'évoquais, qu'ils rencontrent. Mais au-delà du problème, il faut que tu identifies quelque chose d'un peu plus pragmatique. C'est la limitation qu'ils ont en ce moment, en fait. Admettons... c'est un marketeur qui veut faire du revenu. Quelle est sa limitation en ce moment? Ça peut être que son outil, en fait, il lui permet pas de faire ce dont il a besoin. Il n'y a pas cette fonctionnalité-là. Et quand, en fait, tu demandes la limitation concrète, fonctionnelle, là, tu arrives sur des informations qui sont clés. Et après, pour le problème, juste pour répondre à ta question, moi, j'utilise la même technique que beaucoup de gens, c'est demander pourquoi. Tu vois, quand par exemple, un comptable qui te dit je perds trop de temps, j'ai pas assez de temps, tu dis pourquoi? Il va te dire bah parce que je passe trop de temps sur les outils, tu demandes pourquoi? Et il va dire ah bah parce qu'en fait à chaque fois que je veux payer une facture, si j'en ai 300 à payer, je dois cliquer sur 300 fois. Et là tu comprends en fait que le problème c'est qu'il a pas un outil qui lui permet de payer 300 invoices en même temps. Là je te donne un exemple concret de la technique du pourquoi.
Super. Donc en fait, ouais, regarder les tendances, aller chercher de la donnée, regarder la donnée quanti, donc sur les réseaux, en analysant des mots-clés, en analysant les profils des fondateurs, des KOL de l'industrie aussi, et donc les interviews. Donc ça te permet de construire, je veux dire, un process de recherche solide. Tu généralement, je pense que c'est bien de le faire en continu, mais la manière dont tu le formalises, tu te donnes combien de temps généralement pour faire un premier jet, tu vois, là-dessus, avant de l'alimenter au fur et à mesure?
Sur l'étude de marché en entier?
Ouais.
Sur la recherche en entier? Alors déjà, c'est itératif, parce qu'en fait, par définition, le marché, il évolue en permanence, donc tu peux pas l'arrêter. Mais en fait, tu peux faire des sprints de recherche. Et sur 3 semaines, par exemple, tu peux faire quelque chose de... Après, ça dépend de tes ressources en interne, évidemment, et de la vélocité de ton équipe, de tes process, mais sur 3 semaines, tu peux faire un sprint. Et après, il faut le mettre à jour, parce que il y a une fausse croyance qui est de mettre sur un slide « voici, c'est mon ICP ». Et en fait, tu ressors le même slide 2 ans plus tard, ça a presque aucun sens, parce que tu vois, par exemple, l'IA, ça a été déjà il y a 2 ans, mais c'était pas aussi fort que maintenant. Pour donner un exemple marquant. Donc, il faut le faire évoluer.
Complètement. Ok, super. Je te propose de parler un peu de ton framework là, avec ces 5 couches et ces 5 niveaux d'intention.
Ok. Donc, en effet, comme tu l'as dit, il y a 5 couches. Et en fait, ces couches correspondent à 2 choses. Donc, il y a l'intention d'achat, et deuxièmement il y a le commitment par rapport à ta marque, donc le J'ai pas le mot en français.
Il n'y a pas de souci. L'engagement, on va résumer ça comme ça.
Ouais, engagement. Donc, en gros, première couche. Merci pour la traduction.
Juste un petit aparté. C'est parce qu'en fait, la plupart du temps, tu bosses en anglais avec des boîtes américaines ou autres. Donc, ouais, c'est aussi pour ça que...
Surtout, c'est l'écrit qui structure la pensée, pour moi en tout cas. Et donc, vu que j'écris tout le temps en anglais, bah, les mots viennent en anglais. Donc, la première couche, j'appelle ça du snack content. Un snack content, c'est ce qui peut être consommé en moins d'une minute, à peu près. Si tu lis lentement, comme moi, peut-être 1 minute 30, tu vois. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'à ce niveau-là, la personne qui consomme ton contenu a très peu d'intention d'achat, il y a très peu d'engagement auprès de ta marque. En gros, ils s'en foutent, quoi. Ils voient un contenu qui passe, admettons, sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube. Donc, c'est soit des shorts, soit des posts assez courts. Soit ils voient un clip d'un podcast, soit ils font vraiment des contenus courts. Et à ce niveau-là, ton objectif en tant que content marketer ou de marketer, c'est en très peu de temps de montrer soit un problème que ton audience a, de donner rapidement une solution, parler de ta marque avec un point de vue un peu storytelling par exemple ou intéressant. Et dernier point, ça c'est assez général, mais ta marque, ton entreprise doit avoir un point de vue sur l'industrie. Mon point de vue, je l'ai évoqué tout à l'heure, tu vois, c'est les cycles de décision qui sont pas alignés avec la méthode de vente des marketeurs et des sales. Donc, il te faut un point de vue qui est fort. Et en fait, ce point de vue, tu dois le distiller aussi dans tes contenus courts. Parce que si tu fais du contenu qui est comme tout le monde, ce qu'on appellera une commodité, en fait, tu vas pas créer d'engagement. Et tu vas être perçu comme une commodité, un SaaS, peu importe, ou encore un solopreneur, ou encore un business de service qui dit la même chose. Et ça, faut pas le faire, en fait, parce que tu perds du crédit d'attention. À chaque fois que tu postes quelque chose sur les réseaux, tu dépenses un crédit d'attention, en fait. Et donc, ce crédit d'attention-là, faut l'utiliser de la meilleure manière qui soit. Donc, faut que tu en profites pour soit parler d'un problème, soit te positionner grâce à ton point de vue. Donc, ça, c'est la première couche. T'as des questions sur la première couche ou j'enchaîne
ouais,
sur...
J'en écrivais une, je me suis dit est-ce que je l'interromps ou pas ? Mais puisque tu me le demandes sur le point de vue, parce que souvent, voilà, on parle du point de vue et moi, je trouve ça hyper important. Et en même temps, je trouve qu'il y a quand même pas mal de boîtes aujourd'hui qui ont du mal à structurer leur point de vue ou en tout cas qui n'ont pas peut-être un point de vue suffisamment fort, différenciant. Pour toi, c'est quoi un peu les bons ingrédients, tu vois, d'un point de vue ? Est-ce que c'est quoi un peu l'équilibre entre ce qu'on voit maintenant, ce qu'on anticipe pour le futur, mais qui soit pas suffisant, enfin pas trop éloigné pour quand même embarquer les gens. Enfin voilà, c'est quoi un peu comment est-ce que tu le construis ton point de vue ?
Alors moi, sur ces sujets-là, mes sources d'inspiration, elles sont pas du tout dans le monde de du marketing. En fait, je puise l'inspiration dans la fiction. Donc, dans la fiction, que ça soit la science-fiction ou le fantastique ou même la fiction, peu importe. En fait, t'as toujours un même chemin dans l'histoire. Et donc, t'as plusieurs choses qui rentrent en compte, qui vont taper assez profond dans des biais qu'on a ou dans des rêves qu'on a. Premièrement, t'as le passage du rien au tout, tu vois, comme quelqu'un qui à la base n'a rien et qui va devenir puissant, riche, etc. Ça, t'as beaucoup dans les films aussi, les films comme ça cartonnent. Deuxièmement, t'as le David contre Goliath, qui marche très bien aussi. Troisièmement, t'as l'ennemi. C'est un peu différent de David contre Goliath, mais l'ennemi, ça peut être par exemple quelque chose que tu dis que ça marche pas et tu expliques comment ta solution le remplace. Et en fait, dernièrement, c'est ton positionnement par rapport à cet ennemi là, tu vois. Et en fait, ça te permet, ce type de question, ça te permet de construire une narrative sur ton industrie. Il y a une boîte que j'aime bien qui s'appelle Reveal, qui fait du partnership. Oui. Et ils ont ils parlent de Nearband.
Oui.
Et en fait, c'est intéressant parce qu'ils partent d'un postulat de marché qui est qu'il y a quelque chose qui est pas assez, qui va savoir il y a inbound, outbound, et eux leur point de vue c'est pas assez. Donc ce qu'on propose c'est de rajouter quelque chose qui va être le Nearband. Donc ça, tu vois, t'as un point de vue, t'as une narrative, et après faut la distiller dans tous tes contenus. Et là tu crées une narrative assez puissante.
On avait justement j'avais justement reçu Samia de Reveal Head of Marketing dans le podcast il y a quelques temps, mais je mettrai la référence, et on en avait parlé un petit peu, et on avait aussi parlé de ça avec Pierre Touzeau de Clap dans le premier épisode qu'on a fait ensemble, parce qu'on en a fait deux, et lui il avait partagé aussi, bah je pense que ça va te parler, le framework de strategic narrative de Andy Raskin. Okay. Qui est justement là, tu parlais d'ennemis communs et justement de ce côté, il y a un chiffre de marché et voilà aussi pourquoi ça marche pas et comment est-ce qu'on devrait faire. Donc ok, très bien, merci pour les précisions. Vas-y, je te laisse poursuivre pour la deuxième couche.
Donc la deuxième couche après le snack, c'est le short form, donc le contenu court. Et j'ai voulu dissocier snack de contenu court parce que le snack c'est vraiment court. Tu vois. D'ailleurs, je pense qu'on se bousille un peu trop les cerveaux avec les formats aussi courts, mais c'est un autre sujet. Donc le format court, ça va être sur LinkedIn, il n'y a pas grand chose, mais ça peut être un article pulse. Tu vois, je sais pas s'il y a toujours des gens qui font ça. Tu vas aussi avoir, moi j'ai Substack par exemple, où j'envoie des contenus assez courts, mais j'ai aussi des formats plus longs. Tu vas avoir des one pagers qui peuvent être intéressants en termes de contenu que tu peux faire circuler. Donc moi je fais des checklists par exemple. Ça, tu vois, il faut quand même un peu de temps pour le consommer. Ouais. C'est pas juste un post rapide. Donc en fait, c'est
quelque chose qui s'enregistre, qui peut être.
Oui, tout à fait. Tu consommes sur le long terme, en fait. Donc c'est un et ça reste dans le temps. Et après, t'as aussi un format qui marche bien que j'utilise moi, c'est le YouTube court de 8 minutes, entre 8 et 10 minutes. Où je vais sur un sujet et j'explique ce sujet-là. Donc j'en ai fait par exemple sur le nouveau playbook B2B marketing. J'en ai fait sur content strategy, etc. Donc voilà, c'est des contenus souvent qui vont être traités en content upgrade. Donc c'est c'est par exemple sur ton profil LinkedIn ou dans un email, etc. Tu vas mettre un lien qui vont renvoyer vers ce contenu-là en général. Et là, l'objectif, c'est d'aller un peu plus loin sur le problème, d'aller un peu plus loin sur ton point de vue et d'apporter quand même une solution, sans rentrer trop dans les détails. Et là, c'est un peu la synapse avec le reste du framework, c'est est-ce que les gens vont aller plus loin ou pas, tu vois. Parce que si je vois un post qui est intéressant, que tu postes, par exemple, toi, Eric, sur les podcasts, et après, je lis un de tes articles courts et que je me retrouve pas du tout dedans, ça va make or break, tu vois, le reste du cycle. C'est très peu probable que j'aille lire un long case study et que je me renseigne sur ta boîte si je suis pas du tout d'accord avec ce que tu as écrit dans le format court. Donc, c'est assez...
Ouais. Donc, en fait, pour toi, le format court, c'est quelque chose qui va un peu développer un peu plus en profondeur la partie snack. Donc, tu peux prendre... je dis une bêtise, hein, tu prends un post LinkedIn sur lequel tu as distillé ton point de vue, puis ensuite tu le développes un petit peu plus soit dans un Substack, soit dans une vidéo, soit dans une cheat sheet. Et le but derrière, c'est voilà, de peut-être de renforcer un peu l'acceptation de la personne vis-à-vis de ton point de vue, pour que derrière, elle se dise, ok, ça vaille le coup de passer à l'étape suivante.
Ouais, évidemment, c'est tout ça, c'est inconscient. Hein. Elle se dit pas, est-ce que je vais aller à l'étape supérieure, mais en fait, comme tu dis, est-ce qu'elle accepte ton contenu, ton point de vue, est-ce qu'elle accepte inconsciemment d'aller plus loin, et surtout là, c'est ce qu'il faut surtout pas faire à ce niveau-là, c'est faire de la commodité. Donc la commodité, c'est vraiment si je vais sur Google et je tape le titre de ce que t'as expliqué dans ta vidéo par exemple, et que je retrouve 15 autres articles qui disent la même chose, bah c'est ça une commodité par définition. C'est quelque chose qui est facilement accessible un peu partout. Mais oui, globalement, c'est ce que t'expliquais, donc c'est l'acceptation et l'envie d'aller plus loin aussi.
Trop bien. Vas-y, je te laisse poursuivre justement sur la troisième couche. Qu'est-ce qu'on fait après avoir publié un snack et un format court?
Après, j'expliquerai peut-être un peu l'articulation de tout ça, comment tu crées un écosystème autour de ça. Je fais juste une parenthèse, c'est que là, je l'explique en termes de couches parce que ça facilite la compréhension. Mais opérationnellement parlant, il faut construire un écosystème en fait et le déployer petit à petit sur plusieurs mois. Donc ensuite, la couche numéro 3, c'est le format long en fait. Le format long, t'as le bon vieux ebook, le bon vieux white paper, pour moi qui est toujours intéressant, dans la mesure où il est bien designé, dans la mesure où il est élégant, visuel. Tu vois, par exemple, Nearbound, ils avaient fait un PDF qui était vraiment... pardon, Reveal, excuse-moi. Tu vois, ils sont tellement top of mind que je confonds leur nom avec le nom du concept. Donc, ils avaient fait un beau e-book comme ça. Et il y a une autre boîte qui s'appelle Flowla, F-L-O-W-L-A, que j'aime beaucoup aussi, qui avait fait en fait un PDF, c'est un SaaS aussi, ils avaient fait un PDF où ils avaient expliqué, ils avaient intitulé ça le Almanac of Sales, et ils avaient mis tous les personnes qui parlent de sales sur LinkedIn, et ils avaient pris des screenshots de leur post, et en fait, ça regroupait les best practices en sales, et ça, c'est un bon format, tu vois, c'est pas un e-book où on te dit les trois tendances pour faire du revenu en 2024, c'est quelque chose... ça donne envie, quoi, tout simplement.
Ouais, ça te fait gagner du temps. Tu vas pas le trouver en faisant une recherche Google, comme tu as dit. C'est le fruit aussi d'une synthèse, d'une recherche. Et derrière, ça, c'est apporté d'une manière assez digeste.
Exactement. C'est un très bon point. Ça te permet d'avoir accès à l'information rapidement et d'une source que tu as déjà prévalidée, en quelque sorte. Après, tu as les vidéos longues. Et t'as quelque chose qui est vraiment, vraiment sous-coté dans le monde du SaaS, je sais pas, tu me diras, c'est les études de cas, tout simplement. Mmh. En fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les acheteurs ont une checklist et personne ne veut être le premier à acheter quelque chose. Et donc, l'étude de cas, elle vient détruire une objection majeure qui est « est-ce que ça marche ?» C'est la première objection que les gens ont, c'est « est-ce que ça marche ?» La deuxième objection, c'est est-ce que ça marche, c'est,
dans
que ça marche
dans mon
pour
industrie,
moi. Ouais. Voilà, c'est ça. Merci, on est aligné. Est-ce que ça marche pour mon cas? Ça, c'est la deuxième objection. Donc, en fait, si tu as des études de cas qui sont en lien avec l'industrie de ton client, là, tu détruis les deux objections. À condition que l'étude de cas soit bien expliquée, que ça soit bien visuel, etc. Et après, moi, ce que je conseille aussi, c'est d'aller sur des nouveaux formats en termes de contenu long. J'aime beaucoup les challenges, par exemple. Je fais des challenges depuis 2017, je crois. Et ça marche toujours, en fait.
Un challenge, c'est... Tu nous en dises, sur du SaaS B2B, là, un challenge, comment ça se matérialise?
Alors, en fait, déjà, ton challenge, il doit être vraiment connecté au quotidien de tes clients et aux problèmes qu'ils ont et à la limitation qu'ils ont en ce moment. Donc, si par exemple, tu as un logiciel comptable et que tu as une nouvelle tendance qui sort, par exemple, on va parler pour la France, tu as une nouvelle tendance qui sort ou une nouvelle réglementation qui sort en France, ok, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un challenge de 5 jours gratuit, où en fait tu vas inviter ton audience à s'inscrire au challenge et ils vont avoir accès à un espace comme Podia ou Kajabi, tu vois, et vont pouvoir apprendre la nouvelle réglementation avec une vidéo par jour, par exemple, tu vois. Et en fait, là je pars d'une insight marché qui est que j'ai inventé en l'occurrence, mais qui aurait du sens si c'était vrai. c'est de partir d'une tendance ou d'une réglementation et derrière de faire un challenge à partir de ça. Faut pas que tu te réveilles et que tu dises tiens, j'ai entendu dans un podcast, je dois faire un challenge. Tu vas sur un AI generative, tu lui demandes ouais, c'est quoi un bon challenge, et il va te dire un truc bah commodité. Et tu vas faire un challenge, ça va pas marcher et tu vas dire ah, cette tactique elle marche pas. Voilà pour un peu expliciter ce que c'est un challenge.
Ouais, j'aime bien en plus ton exemple de la réglementation parce que c'est quelque chose qui est hautement probable en France, donc ouais, ça, je pense que ça marche très très bien. Et d'ailleurs il y a une des réglementations là qui fait pas mal de bruit en France et qui agite pas mal les logiciels de facturation, ça va être tout ce qui est lié à la facturation électronique. Et donc du coup, bah typiquement, c'est un cas dans lequel ton challenge, l'exemple dont tu parles, peut être hyper pertinent pour aider les gens, les boîtes à comprendre en gros ce qui va les attendre. Et donc en ayant cette posture
carrément
de j'éduque le marché, je te prends par la main, je t'explique un petit peu comment est-ce que tu vas être impacté. Bah derrière, tu deviens un peu le lead sur le sujet, tu deviens top of mind et donc tu renforces un peu les liens.
Exactement. Bah, tout simplement, tu reviens à un principe assez fondamental dans la société, c'est être utile, en fait. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui oublient juste simplement ça quand ils font du marketing. Ils pensent vraiment, ouais, faut faire de la conversion, faire de la conversion. Et pourquoi juste on serait pas utile? Et je pense que l'audience va comprendre qu'on est utile et elle va avoir envie d'aller plus loin, tu vois. Donc cette notion d'utilité sur un challenge, c'est super important, sur un ebook pareil. C'est est-ce que ce que je vais produire, c'est pour récolter des emails ou c'est pour être utile et être positionné comme quelqu'un d'utile, enfin comme une boîte utile, tu vois. Moi en tout cas dans le contenu que je fais, c'est toujours ça, c'est je peux pas faire un truc juste pour récolter des emails, ça aurait vraiment aucun sens.
Carrément. Non, c'est contre-productif et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de boîtes qui ont de plus en plus cette approche média. C'est comment est-ce qu'on devient utile en apportant la bonne information. Et après, bah, forcément, les gens, ils sont pas idiots, quoi. Quand tu rends service, quand tu apportes de la valeur derrière, ça se traduit aussi dans bah, déjà le niveau de confiance qu'ils ont vis-à-vis de ta marque, mais aussi derrière sur la vélocité de ton pipe et sur le bouche à oreille, sur tout un tas de paramètres. Bon, bah je te propose de poursuivre sur les quatrième et cinquième couches maintenant qu'on en a terminé.
Ok, ça marche. Juste petite précision encore. La question, c'est, il y a une question qui vient souvent, c'est est-ce que je dois gater mon contenu? Est-ce que je dois demander un email? À partir de la couche 3, pour moi, c'est cohérent. Mm-hmm. À partir du moment où... où en fait on va donner quelque chose qui est assez dense. Ensuite la couche numéro 4 c'est je l'ai là, j'ai les exemples ici. J'enverrai d'ailleurs ce doc.
Je le mettrai dans la description.
À ce moment-là en fait. Ouais, à ce moment-là les personnes vont être intéressées, vont avoir une intention d'achat. Si elles arrivent à consommer ce type de contenu, en fait. L'intention d'achat, c'est-à-dire qu'ils sont... en tout cas, le contenu que tu vas produire, ça va être dans l'optique de transformer cette intention d'achat. Donc, ça peut être, par exemple, des documents qui vont expliciter exactement ton SaaS, ton produit, et en général, que tu vas soit donner en téléchargement, soit envoyer par email. Soit peut-être du retargeting à la limite où tu proposes ce doc. Après, tu vas avoir des workshops, des webinaires qui vont être où tu dois vraiment qualifier, où tu vas parler du produit en soi, mais vraiment un truc concret, tu vois. Admettons, sur le challenge dont on parlait tout à l'heure, t'avais 500 comptables et t'as identifié 100 personnes qui t'étaient vraiment investies. Tu vas leur proposer de venir à ce workshop-là et sur le workshop, on explique en fait comment la solution permet de répondre à la réglementation. Tu vois. C'est un exemple. Donc tu vas en fait créer du contenu qui est pour les gens qui ont de l'intention d'achat. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup beaucoup de boîtes qui font pas ça et qui restent sur le sur les couches 1, 2, 3, tu vois. Et derrière, qui vont pas aller chercher ce contenu-là qui va être pour la conversion. Et il y a des boîtes qui font totalement l'inverse, qui font que ça. Par contre, elles sont pas du tout sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un écosystème et d'être présent sur toutes ces couches-là. Et donc la cinquième couche, ça, c'est surtout pour les boîtes de services, on va dire, ou pour les boîtes qui ont des gros ACV, donc des gros
paniers moyens.
Ouais, paniers moyens. Et exactement. Donc en fait, à ce niveau-là, les personnes qui vont acheter ont besoin, si je vais mettre 30 000 euros dans ton SaaS, je suis une entreprise par exemple, j'ai besoin que tu donnes des choses qui sont personnalisées. Donc la cinquième couche, c'est le contenu qui est personnalisé. Donc tu peux avoir par exemple un plan d'action. Ça, c'est très connu dans les agences notamment. Tu peux avoir un événement, un workshop, mais qui est vraiment personnalisé pour le compte. C'est pas un sales call, tu vois. C'est pas un sales call dans la mesure où tu vas lui expliquer en fait par exemple ton SaaS, comment il fonctionne exactement, les process en cours. Donc t'es pas là pour closer, tu vois, t'es là pour vraiment apporter des réponses aux dernières questions. Et voilà, t'as beaucoup de moyens en fait de personnaliser ton contenu comme ça. Et après, tu peux aussi faire des case studies qui sont des études de cas qui sont personnalisées, dans le sens où tu vas en fait regarder l'entreprise cible, tu vas analyser les clients que tu as eu auparavant et tu vas regarder les points de similitude et tu vas faire une étude de cas qui est vraiment en lien avec ton prospect.
Ok, donc si je résume là par rapport aux cinq niveaux, on va dire que et après, hein, tu l'as dit, hein, c'est inconscient et en termes de production, bah, ça se matérialise sur plusieurs mois. Et d'ailleurs, on va venir sur ce point après, sur comment est-ce qu'on met ça en pratique. Mais donc, si je résume, sur les trois premières couches, c'est plutôt on attire l'intention, on fait en sorte qu'il y ait une adhésion au point de vue et on distille de la valeur, un max. Et à partir de la quatrième et la cinquième couche, on balise un petit peu plus et on switch dans une approche où on met plutôt en avant le produit, on montre de la preuve et derrière jusqu'à répondre aux moindres objections, aux moindres freins pour que ça soit générateur de lead à la fin.
Ouais, tout à fait. Je pense que t'as bien résumé ça. La seule chose qu'il faut rajouter, c'est que en fait, si là on l'explique comme ça, tu pourrais dire, en fait, c'est juste un framework AIDA classique à IDEA, tu vois. Mais en fait, ce framework-là, pourquoi moi je l'ai créé? Pour m'en servir à la base. Et en fait, c'est qu'il a un côté pragmatique. C'est que tu sais, en fait, combien il y a de niveaux, ce qui est plus élégant que couche d'ailleurs. Je préfère ton mot niveau.
Niveaux, ouais.
Parce que layers en anglais c'est bien, mais en français couche c'est pas ouf. Donc il y a plusieurs niveaux et en fait tu sais à peu près quel type de contenu tu dois produire en fait. Et là j'ai un point de vue qui est non pas funnel etc. C'est juste un plan de production tu vois. Et pour moi comme tu le disais au début du podcast, j'essaie d'être le plus pragmatique possible pour pouvoir passer à l'action le plus rapidement possible quand t'as fini ta stratégie. Parce que si à la fin de ta stratégie c'est du AIDA et c'est flou, ça dépend de plein de facteurs, c'est pas facile de créer le contenu. Par contre, si t'as un framework comme ça qui te dit le nombre de contenus qu'il faut faire et à quel niveau il appartient, c'est plus facile de passer à la production du contenu.
Complètement. Ah, mais t'as bien fait de préciser. Et je transitionne avec la partie production de contenu. Toi, aujourd'hui, comment est-ce que ça se matérialise en termes de production? Tu le disais, ça prend plusieurs mois. Et puis, de toute façon, les process en B2B, ils sont sur des cycles longs. Donc, comment est-ce que tu l'exécutes concrètement? Et les résultats, à partir de quand, tu vois, on peut en espérer? Parce qu'à la fin, les marketeurs et même les CEO, ils veulent des résultats. Donc ouais, est-ce que tu peux nous donner un petit peu d'insight là-dessus?
Est-ce que tu veux que j'explique ce que je fais pour moi ou plutôt pour les SaaS B2B? Qu'est-ce que tu préfères?
Bah, prends ton exemple, comme ça, ça sera hyper concret. De toute façon, c'est juste la transposition à toi, mais je pense que on va tous réussir à faire la transposition.
Ok. Alors, parce que pour mon cas, c'est assez particulier, parce qu'en fait, j'étais designer avant, à un moment donné, donc je crée même des posters pour des festivals de films, etc., quand j'étais à l'ambassade notamment. Et j'ai découvert le copywriting il y a 3 ans à peu près, et j'ai aussi un master en études de marché en fait. Donc j'ai la chance de couvrir les trois. Enfin, c'est pas la chance, c'est mon parcours me permet de couvrir les trois fonctions clés de la création de contenu en fait. C'est pour ça que je demandais parce que là dans ce que je vais expliquer, techniquement, il faudrait soit répliquer mon profil, soit avoir un designer, un copywriter qui conceptualise aussi et quelqu'un qui va aller sourcer les insights. Voilà, petite parenthèse. Mais globalement, ce qu'il faut faire, c'est toujours partir du marché et donc de ton analyse de marché. Et ça, c'est pareil quand tu montes une boîte, hein, de toute manière, c'est si tu fais une solution et derrière, tu cherches un problème pour qui va matcher avec ta solution. Bah quand tu vas arriver en appel de vente, les gens vont te dire ah c'est intéressant mais pas tout de suite. Ils vont tous te dire ça. C'est parce que la solution en soi elle est intéressante mais ils en ont pas besoin tout de suite. Voilà tout simplement. Et c'est pareil dans la création de contenu. Donc la première chose c'est d'aller sourcer de l'information. Tu vois notamment sur LinkedIn, il y a beaucoup de personnes qui sont très attachées au format du poste, ce qui est très important, mais c'est pas ça le principal pour moi. Le principal, ça va être la donnée à la base, la donnée brute que tu vas exploiter. T'as jamais remarqué sur LinkedIn, des fois tu scrolls et tu tombes sur un poste où il y a quelqu'un qui a, c'est juste un gros pavé de texte, et le gars il a 15 000 likes, tu vois, il a 15 000 likes, et en fait tu lis le truc. Et il parle d'un truc hyper précis, hyper intéressant. Et tu lis, tu fais ah ouais super intéressant. Et tu likes. Tu vois. Et ben c'est parce que à la base c'est la donnée qui va être le plus intéressante, c'est ce dont tu parles. Pour moi ça c'est vraiment le 80% de la performance, non pas du travail mais de la performance. Ça provient de ta donnée. Donc sourcer de la donnée, j'ai expliqué un peu auparavant dans le podcast là comment sourcer de la donnée. Moi j'utilise beaucoup SEMrush je vais pas mettre mon lien.
Non mais t'avais fait un carrousel là-dessus.
Oui ouais, voilà.
Justement pour expliquer comment est-ce que tu faisais de la recherche de mots-clés appliqués. Je sais plus si c'était une idée de startup ou même au content, je crois que t'avais fait, ou alors c'était dans une vidéo.
Les deux, ouais.
Ouais.
J'ai fait les deux. J'ai fait recherche de mots-clés pour faire une boîte, pour avoir des idées. Bien sûr, il faut tester derrière. Et deuxième, pour créer ta stratégie de contenu. Donc, pour revenir au process, voilà, interview, aller chercher pourquoi les gens achètent, leurs problèmes, comment ils achètent, etc. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est créer le plan de contenu. C'est-à-dire... là, je pars du postulat que toute ta stratégie marketing est faite.
Ouais.
Parce que si là, je m'adresse à quelqu'un qui vient de commencer en SaaS B2B, il faut d'abord qu'il aille faire son offre, sa proposition de valeur,
positionnement,
ses messages, son positionnement. Ouais. Faut qu'il fasse tout ça, en fait. D'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse sur le positionnement. En positionnement, faut dissocier deux choses qui sont très, très importantes en contenu. T'as le positionnement rêvé, en fait, ce que tu vas écrire dans ton slide, tu vois. Moi, je veux être perçu comme l'IA qui va révolutionner le monde de la tech, tu vois. Mais en fait, j'ai une news, c'est que en fait, quand t'écris quelque chose sur un slide, ça le crée pas réellement dans la réalité. Tu vois, ça le fait pas apparaître dans la réalité.
La perception, elle est pas forcément... C'est pas une prophétie autoréalisatrice.
Exactement. Je dis ça parce que je l'ai beaucoup vu, tu vois, où on écrit quelque chose dans un slide Et après, 2 ans plus tard, on dit, mais si on a fait notre positionnement, va chercher le document numéro 37 de 2021. Donc, tu as le positionnement désiré et derrière, tu as le positionnement réel, en fait, perçu par ton audience et c'est par le marché. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte, évidemment, parce que c'est eux qui vont t'acheter quelque chose. Tu vas pas t'acheter des choses à toi-même. Donc, c'est très primaire, hein, mais c'est des fois, on oublie tellement on est dans le rush opérationnel. Et en fait, entre ces deux choses-là, entre le positionnement désiré et perçu, c'est juste du messaging. C'est juste répéter en permanence les mêmes messages. Et dans tes contenus notamment. C'est pour ça que je fais un aparté, parce que c'est très important de comprendre cette distinction-là et en quoi le contenu va t'aider. Donc, si je reprends un peu tout, t'as d'abord la stratégie marketing, derrière, t'as la sourcer les données, ce que j'expliquais avant. Troisième point, t'as la création du plan. Et sur ce plan, bah, tu peux utiliser le framework que je viens d'expliquer. Et après, bah, c'est fini. Non, après, tu dois évidemment créer le contenu.
C'est ça. Après, il faut produire, ouais.
Parce que c'est ça, c'est le. D'un côté, il y a des gens qui font pas du tout de stratégie et d'autres qui oublient complètement l'exécution. Évidemment, pas beaucoup, hein, sinon ça serait problématique. Et donc, la création du contenu, bah là pour le coup, c'est c'est une question de compétence en fait, tout simplement. C'est est-ce que t'as un bon copywriter, est-ce que t'as un bon designer? Et à la limite, un bon vidéo éditeur, si tu fais de la vidéo. C'est aussi simple que ça, en fait. Là, on est plus sur une problématique RH, trouver les bons talents. Cela dit, la seule chose que je pourrais préciser, si ça peut aider les gens qui écoutent le podcast, c'est si vous avez des marketeurs en interne, essayez de les faire coacher par des créateurs de contenu pour qu'ils comprennent, en fait, comment le marché est en train d'évoluer sur ce niveau-là, parce que les créateurs de contenu sont en avance sur la création de contenu. Par définition, c'est leur rôle comparé à des marketeurs. Et donc, quand ils viennent te coacher, ils t'expliquent les dynamiques sur les réseaux sociaux, les principes d'influence, comment faire du contenu qui plaît à ta cible, comment faire du contenu qui engage, etc. Et ça, ça te permet en fait bah, d'avoir du bon contenu que derrière, tu vas pouvoir publier. Et après, publication avec des cycles itératifs, tu peux avoir un backlog, par exemple, où tu vas lister tous les contenus que tu vas publier et tu vas essayer d'analyser les résultats. Et dans la... Enfin, pas essayer, tu vas analyser les résultats. Et la dernière colonne de ce backlog, c'est la colonne résultats, où tu vas, en fait, regarder les résultats à la fois qualitatifs et quantitatifs. Donc, quel type de conversation? Est-ce que tu vois un uplift sur tes sales calls en termes de conversion sur le closing, par exemple? Je te donne un exemple concret. Si tu prends le case study, tu prends un case study qui vraiment, tu l'as bien poncé, tu es vraiment fier de ce case study, tu mets dans ton backlog, tu le donnes à tes sales et tu dis, voilà, maintenant, vous allez envoyer ce case study ou même le présenter pendant le call. Et si tu as un échantillon assez représentatif, tu peux analyser l'impact sur le closing rate en partant du postulat que tous les autres facteurs ne sont pas, tu vois, t'as pas plein de facteurs différents à chaque fois. Donc tu peux travailler là-dessus et ça dans ton backlog, ça va avoir un impact sur les résultats. Ou des trucs plus simples, tu vois, bah tu fais un post LinkedIn, combien d'impressions, combien d'engagement, etc. Et ça tu le mets dans ta colonne. Et à partir de ça, t'itères. Et t'itères, bah là, je vais pas apprendre ça aux marketeurs qui écoutent ce podcast. C'est le plus important au final.
Et alors, j'ai eu une petite déperdition de son, donc peut-être que t'en as parlé. Mais selon toi, à quelle fréquence on doit, je dirais, renouveler le content sur l'ensemble des layers, indépendamment des résultats, toujours dans une optique de test et d'amélioration continue?
C'est un sujet complexe. Pourquoi ? Parce que ça dépend de l'industrie et de la vélocité de l'industrie. Vélocité dans le sens, si tu vends par exemple des grosses machines en B2B, ton marché va pas changer beaucoup. Par contre, si tu travailles sur l'IA, tu vois, bah là, tu dois changer, je pense que tu dois changer assez souvent. C'est pour ça aussi que c'est important d'avoir un fil conducteur. Mm-hmm. C'est pour... attends, faut que je ferme LinkedIn parce que j'entends du bruit. Hop. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un fil conducteur, parce qu'en fait, tu vas toujours parler des mêmes piliers de contenu, tu vois. Voilà, mais sinon, pour essayer de te répondre, les contenus longs, faut les garder, faut qu'ils soient evergreen, faut qu'ils restent dans le temps. Tes contenus courts, en fait, c'est un processus créatif qui est en permanence en train de se renouveler, tu vois. T'es en permanence en train d'étudier le marché, en train de regarder les tendances, etc., et de mettre à jour ton contenu pour faire des nouveaux types de posts.
Donc, faut pas nécessairement produire beaucoup de contenu, en tout cas d'être dans une recherche du volume pour inonder, mais plutôt faire du volume pour pouvoir être toujours aligné avec les tendances de marché, avec les attentes de tes personas. C'est plus de cette optique-là qu'il faut voir le volume.
Ouais, je suis d'accord. C'est en fait, tu dois te calquer en permanence sur ton marché et ton audience. Donc, quand elle évolue, tu évolues avec elle.
Ok. Bon, je crois qu'on a couvert pas mal de choses. Je serais très curieux de savoir, toi, de là où t'es et par rapport à ce que tu vois, les formats de contenu ou les médiums qui te paraissent les plus prometteurs pour les boîtes B2B aujourd'hui.
Alors déjà, c'est sur tous les formats. Il faut de plus en plus être visuel. Je vois que ça évolue beaucoup. Les SaaS sont assez précurseurs là-dessus. Quand tu vas sur une landing page, t'as ou une home page ou about us, tu vois, t'as une headline et à côté t'as un graphique, un mock-up qui montre la solution et avec un peu de copie à l'intérieur du graphique qui va expliquer comment utiliser l'outil. Et ça, c'est important parce que on est vraiment dans le visuel en permanence, dans la vidéo. Et donc, pour marcher sur tous les contenus, tous ceux dont j'ai parlé, il faut être visuel au maximum. Donc là, les designers et le content design, c'est un nouveau terme qui va arriver, je pense, assez bientôt, tu vois, c'est le content design. Donc c'est un copywriter qui est designer à la fois. Super dur à trouver. Et ça va être super important. Donc ça, c'est la première chose. Après, en B2B, ça va plutôt se jouer sur les écosystèmes, en fait. Il n'y a pas un format qui va te faire péter les scores. C'est pas genre, ouais, j'ai fait plein de carousels sur LinkedIn, j'ai fait 1 million d'ARR la première année. C'est vraiment quel écosystème tu construis. Donc à travers le framework dont j'ai parlé, et c'est cette compréhension globale de comment ton client achète qui va te permettre de faire un écosystème qui a du sens. Et sinon, je pense que le live, je crois au live en B2B. Après, il y a quelque chose qui marche assez bien, c'est que tu regardes ce qui se passe en B2C, tu comptes genre 5 ans et tu vois ça commence à arriver, en fait. Ça serait intéressant de faire cette étude là. Voilà, globalement. Donc, gros focus sur créer un écosystème au-delà de chercher un format clé, tu vois.
Ok. Ouais, tu parles du B2C, ça m'inspire. La dernière fois, je parlais du format Twitch avec un ami, tu vois, pour le okay. podcast. Et ouais. Je me disais, ouais, ça pouvait être intéressant pour faire participer aussi les auditeurs, tu vois, à la conversation. Mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être, je sais pas ce que t'en penses. Je me dis, c'est peut-être un petit peu trop en avance par rapport à la maturité, parce que je me vois mal faire venir peut-être, voilà, des C-level, des CEO sur Twitch. C'est peut-être pas encore, je dirais, dans leurs habitudes, tout comme, tu vois, Discord, c'est peut-être pas, ça a le vent en poupe dans la partie B2C, mais aujourd'hui, Discord ou Slack, j'ai l'impression que c'est encore plus le Slack, tu vois, pour connecter. Donc ouais, c'est je pense que ça dépend aussi des codes et de ton industrie, de la maturité, du type de personne que tu cibles.
Moi, honnêtement, je pense que ça dépend de qui le fait et avec qui. Une autre tendance qui va arriver, c'est le media equity. Donc, c'est en gros un créateur. J'ai fait un post là-dessus cette semaine, vous pouvez aller regarder. C'est un créateur qui va rentrer dans une boîte, soit en advisor, soit en partner, ou soit même en, avec de l'equity, comme je disais. Et en fait, il rentre parce que la boîte a compris que c'était un enjeu stratégique, la création de contenu et de communauté, etc. Et en gros, ils vont en fait, c'est lui qui va faire le live, tu vois. Sauf que ça va être brandé par la marque. Donc ça, si c'est dans ce cadre-là, ce contexte-là, c'est bon, ça marche en fait. Parce que tu vois, c'est à la frontière entre le content, communauté et la boîte.
Ok, ouais.
Ça se fait probablement déjà, honnêtement. Honnêtement, ça se fait déjà, je pense.
Bah, je crois que j'avais réagi sur ce post d'ailleurs. J'ai vu du média for equity, ou plutôt, je sais pas, de réputation for equity, on va le dire aussi comme ça, avec Taplio et Tweetunter qui s'étaient associés justement avec des influenceurs qui les avaient fait rentrer au capital, justement pour leverager un peu cette notoriété, leur visibilité. Et faire une association entre justement ces créateurs et le produit, pour toucher un maximum de monde, pour les transformer aussi en power user. Donc ouais, mais sur du tools, quoi. J'ai l'impression que c'est pas encore ça viendra peut-être pas sur de l'enterprise, mais en tout cas ouais, je pense que on en est aux prémices là-dessus, mais ça va être prometteur.
Je pense qu'on en est aux prémices, et là tu parles d'une verticale qui est toujours en avance, tu vois, les SaaS qui sont vraiment proches de la création de contenu, par définition, ils vont vraiment être précurseurs sur ces tendances-là. Ouais. Mais c'est impressionnant ce qu'ils ont fait.
Ouais. Oh, ouais. Et puis d'ailleurs, je crois que Guillaume Houbèche avait fait un post là, cette semaine, là, au moment où on enregistre en tout cas, sur l'évolution de Taplio qu'il avait acheté, je ne sais plus, à 20 000 ou 50 000 de MRR, et qui aujourd'hui a dépassé les 3 millions, je sais pas, au bout d'un an et demi, 2 ans, donc d'ARR là cette fois-ci, donc assez massif. Mais ouais,
c'est assez impressionnant ce que tu peux faire avec un SaaS si tu es sur une industrie qui décolle et que tu as un produit qui est possible, ta possibilité de l'utiliser dans tous les pays. C'est assez dingue ce que tu peux faire très rapidement. C'est pas pour, je dis pas c'est facile, hein, c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait. Mais tu vois, quand tu réfléchis, t'es dans ta chambre ou dans ton salon et tu fais un SaaS et tu décolles comme ça. D'ailleurs, il y a la tendance Twitter bro qui font ça. Tu vois le building public, c'est grosse tendance building public qui va se démocratiser aussi. Tu vas même avoir, pour moi, tu vas avoir une Kardashianisation de l'économie.
Kardashianisation, ouais.
Tu vois, j'ai du mal à le dire, mais tu vas avoir de plus en plus un peu comme ce que fait Hormozy, par exemple, où il va, par exemple, montrer les backstage, behind the scene, etc. Ça, je pense que ça va beaucoup arriver. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est sur Twitter, t'as beaucoup de building public sur des SaaS, et c'est des gens qui ont genre 16 ans et qui font des gros SaaS de plus en plus. T'as de moins en moins de barrières à l'entrée, donc c'est assez fou ce qui est en train de se passer.
Ouais, c'est des bootstrappers généralement. C'est un peu, ils se battent, je dirais, avec leurs armes, et à défaut d'avoir du capital, ils ont une audience en face, et c'est comme ça aussi qu'ils évangélisent sur leurs solutions. Donc, et puis je trouve que c'est très humain, c'est-à-dire que les gens s'attachent d'abord au founder, voilà, plutôt qu'au produit, qui généralement se positionne sur un océan rouge. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait la personnalité elle est unique, et t'achètes pour cette personne là en priorité.
Ouais, tout à fait. Après, tout ça est possible quand même dans la mesure où t'as une vraie économie qui tourne derrière, tu vois. T'as tout le secteur du tertiaire, du secondaire, du primaire qui tourne. Si tout ça collapse, il y a plus de bootstrapping SaaS. Va falloir retourner planter des pommes de terre. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'est parce que pour moi, ça a un côté un peu. C'est dingue, quoi. Ce qui est le point où on en est arrivé, en fait, d'un point de vue anthropologique, philosophique, c'est dingue, en fait, là où on s'est retrouvé, tu vois. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, on était dans les champs, quoi. Là, on fait des sas sur Twitter.
C'est ça. Bah écoute, ça va être cool de voir l'évolution. Je crois qu'on a balayé tous les sujets. Tu dis si je me trompe.
Bah, y en a plein d'autres, mais il faudrait du temps.
Ouais, bon, on se fera peut-être soit des lives. Voilà, je réfléchis à la communauté, moi aussi, pour 2024. Donc peut-être ça sera l'occasion de refaire quelque chose ensemble. En tout cas, merci. Et d'ailleurs, t'as une petite nouvelle, hein, depuis. Enfin. Au moment où l'épisode sortira, tu auras lancé ta formation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Je t'avais dit que tu pourrais en parler parce que je sais que tu allais être généreux. Donc, c'est à toi. C'est l'instant promo.
Yes. Bah, écoute, comme j'expliquais, ça fait 8 ans que je suis dans le marketing. J'ai fait un peu plus de 300 projets en marketing. Et ce que j'adore faire, c'est, comme tu as pu voir, en fait, c'est analyser ce qui marche et créer à partir de ça des process et des frameworks. Et bah pour la première fois, je vais le mettre à disposition dans un cours et je vais choisir la spécialité sur le content strategy. Donc en gros, aujourd'hui, on a balayé peut-être 10-15% du contenu, tu vois, d'un point de vue global. Et en fait, l'objectif, c'est de permettre à des boîtes B2B de créer leur strat de contenu et de la déployer, et surtout de la monétiser dans le sens où ça devient un canal, tu vois, un revenu channel. Donc ça, c'est l'objectif du cours. Ouais.
Trop bien. Mais écoute, je mettrai le lien dans la description. Je mettrai tous tes liens, voilà, comme okay, j'ai l'habitude de le faire. Sinon, bah, Pierre et Rubel sur LinkedIn, et je pense qu'ils trouveront tout ton contenu. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment très sympa d'enregistrer ensemble. Et bah, moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.
Yes.
SaaS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin, presque. Si vous avez retenu un ou deux conseils, technique ou apprentissage, alors pensez à noter SaaS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide à gagner en visibilité et m'encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez collaborer avec un copywriter qui comprend les enjeux métiers et business d'un SaaS, envoyez-moi un message sur LinkedIn, Eric Seclet, SECLET. Encore merci et à la semaine prochaine.